Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, fin de régime. Denis Seffer, bonjour.
Bonjour.
Votre édito, entre 4e et 6e République, les électeurs de dimanche, lors du second tour des élections législatives, ont, écrivez-vous, ressenti ce que le discours présidentiel contenait de faux?
Oui, il y a eu un côté caméléon hein, de Macron depuis son élection de 2017. Je crois que ça a presque plus joué que sa politique en tant que telle, ses réformes en tant que telles. Enfin, les deux sont liés, bien entendu, mais il y a un côté de mutation, de transformation idéologique qui a pu déplaire énormément parce que la France a élu en 2017 un homme qui se présentait plus ou moins comme disciple du christianisme social, de Paul Ricoeur, de centre-gauche, d'une laïcité ouverte, etc. Et en fait, peu à peu, même très rapidement, il est devenu un peu tout le contraire de ça, un personnage assez réactionnaire, assez fermé, et donc dans une sorte d'errance idéologique. Le symbole en est le passage à l'éducation nationale de Jean-Michel Blanquer, qui était quand même la droite de la droite de la Macronie, à Pape Ndiaye, qui est un homme d'ailleurs tout à fait honorable, mais très très à gauche et très ouvert sur les questions de laïcité. Donc ça fait une très mauvaise impression, et les gens ont sans doute eu l'impression d'avoir été dupés. Et je pense que c'est ça a beaucoup joué dans le... Alors évidemment, ils l'ont réélu haut la main, finalement, parce que c'était contre Marine Le Pen, mais du point de vue de l'élection législative, on montrait toutes les réticences et les restrictions que l'électorat manifestait, sans compter l'énorme abstention, évidemment, qui est aussi une manifestation de ces réticences.
Et c'est pourquoi vous estimez que ces législatives ont sonné le glas du régime présidentiel ?
Oui, enfin alors institutionnellement, je ne sais pas. De toute façon, il faudra des changements avec des votes, des lois et des décisions politiques. Mais dans les faits, effectivement, tout le monde le constate. Le pouvoir s'est déplacé de l'Élysée où il était exclusif, hein, avec Macron encore plus qu'avec ses prédécesseurs, à l'Assemblée. Et c'est à l'Assemblée que tout va se faire et se défaire. Alors ça, on ne sait pas justement ce qui va pouvoir se faire. Mais en tout cas, c'est là que la politique prend ses marques.
Et le résultat de ce second tour met la Macronie, écrivez-vous, dans la main de la droite LR.
Oui, parce que bon, moi je m'étonne un peu du débat, du faux débat qui se mène au lendemain de ces législatives, avec Édouard Philippe qui dit il faut des coalitions, avec Bérou qui dit à peu près la même chose, etc. Il n'y aura pas de coalition. Il n'y aura pas de pacte. D'ailleurs, la LR, la droite, l'a dit très 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 clairement. Ils n'y ont aucun intérêt à lier leur sort pour des prochaines élections à un bilan qui va être très critiquable. Mais en revanche, il va y avoir des majorités à géométrie variable qui se feront et se déferont sur des textes avec des blocages. Et aussi, c'est là la grande faiblesse des élus. LREM, ils vont être à la merci, disons, du chantage, j'emploie le mot, hein, qui sera exercé par la droite pour durcir tous les textes qui sont présentés par la majorité relative que constitue aujourd'hui l'REM. Et donc ça, c'est très très redoutable. On voit qu'il y a une sorte de continuum qui va s'établir entre les Républicains et le Rassemblement National qui est là et qui est bien là et qui va aussi essayer de durcir les textes. Donc qu'est-ce que vont accepter les macronistes, qu'est-ce qu'ils vont tolérer dans ce durcissement, où est-ce qu'on va aller rapidement vers des blocages et une dissolution? C'est la problématique face à laquelle se trouve Emmanuel Macron.
Et ce chantage, il ne risque pas également d'être exercé par les groupes qui composent la NUP?
Alors, c'est le grand point d'interrogation, parce que la NUP, ce n'est pas un groupe déjà comme malgré ce que Mélenchon a tenté de faire. C'est un ensemble très composite, et on peut imaginer qu'il y aura une aile dure, probablement LFI, hein, la France Insoumise, et puis peut-être des composantes qui seront plus souples et plus enclines à négocier des textes. On peut penser évidemment à Olivier Faure, les socialistes, et peut-être même les Verts. Donc jusqu'où, disons, cette distorsion peut aller sans que la NUP implose, c'est un peu la question qui va se poser. On peut imaginer que tous n'auront pas la même approche de ces débats à démocratie, à ces débats de démocratie finalement, parce que finalement l'un des aspects que je veux ajouter, c'est que l'un des aspects positifs dans cette histoire, c'est que la politique parlementaire, mais la politique tout court d'ailleurs, va redevenir un peu plus vivante que ce qu'elle a été ces années dernières, où il y avait une sorte de discipline robotique des élus macroniens avec les à partir des ordres venus de l'Élysée. Donc ça peut être une sorte de respiration démocratique. Enfin, faut voir ce que les acteurs en feront.
Et nous allons vers quelque chose que les générations actuelles n'ont pas connu, soulignez-vous.
Oui, évidemment, depuis la Quatrième République, mais c'est pas tout à fait la Quatrième République. C'est pour ça que j'ai osé ce titre entre Quatrième et Sixième République, parce que justement, c'est un peu l'enjeu de ce qui des mois ou des semaines, peut-être même des mois qui viennent. Et puis l'enjeu principal, c'est effectivement chaque force politique au sein de l'Assemblée va devoir se déterminer et s'identifier d'une certaine façon par rapport au texte et par rapport, disons, à l'axe central qui reste la Macronie. Et au-delà des enjeux sur les textes eux-mêmes, il y a effectivement qui va se dessiner la possibilité d'alternative. N'oublions pas que Macron ne va pas se représenter au-delà du deuxième quinquennat, si celui-ci va à son terme, ce qui n'est pas sûr du tout. Et donc, est-ce que c'est la gauche qui va se présenter comme étant, comme offrant la perspective la plus crédible, ou est-ce que c'est l'extrême droite? Parce que à l'issue du premier tour, on pouvait penser que la gauche était en très bonne position. À l'issue du second tour, la gauche est toujours en bonne position, mais l'extrême droite lui vole un peu la vedette. Et donc là, il y a une concurrence tout à fait redoutable. Sans compter troisième hypothèse de centriste qui est toujours possible, mais le vrai enjeu quand même, c'est l'avenir du pays, et aussi les alternatives qui vont se peu à peu prendre forme, et on les verra se dessiner d'autant plus précisément là que chaque texte, disons, dira de chaque force politique ce qu'elle est réellement.
Merci. Denis Siffard.
Merci à vous.
La une de Politis, fin de régime, et votre édito entre 4e et 6e République.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio-Orient.